Voilà, j'intégrate maintenant une question qui sort peut-être du champ de la politique agricole commune, mais qui à mon sens est une articulation. Vous l'avez dit sur la gestion des fonds européens, finalement la marge de manœuvre de la région est relativement limitée, si j'ai bien compris. En revanche, il y a une compétence que la région exerce pleinement, c'est le développement économique. On a parlé ce matin des questions de filière. Est-ce que vous avez imaginé ou réussi à mettre en place des articulations entre ces deux aspects, disons, et est-ce que vous avez déjà réussi à mettre en œuvre des sujets qui finalement orientent la production agricole vers des filières plus complètes qui vont jusqu'à la transformation des produits et de quelle façon vous y êtes pris avec les partenaires des territoires entre, on va dire, acteurs agricoles et acteurs industriels?
Oui, c'est sûr. Enfin, l'agroalimentaire est aujourd'hui qui est un volet important chez nous dans la Nouvelle-Aquitaine. Je vous rappelle, enfin, c'est simplement le chiffre d'affaires de l'agriculture, donc, puisqu'on est la plus grande région française, donc, et la première région européenne en termes de valeur de sa production, c'est 11 milliards de valeur de la production agricole sur la région. Et si on y rajoute l'agroalimentaire, c'est près de 30 milliards d'euros et 170 000 emplois. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Donc aujourd'hui, bien sûr, on cherche à faire le lien. Alors, on cherche à faire le lien avec l'agroalimentaire, mais aussi on cherche le lien de trouver et d'être innovant en termes de distribution et de trouver des moyens et de voir avec un volet très fort où on est très engagé sur la restauration collective, donc avec un programme pour pouvoir effectivement améliorer la position des produits régionaux dans tout ce qui est restauration collective, bien sûr, lycée et scolaire, mais aussi dans toute la RGT. Sur ce qu'on a voulu développer, et je pense que ça s'était développé, mais j'y suis pour rien parce que ça s'est fait avant que j'arrive, mais il y a eu un gros développement, c'est au travers des signes officiels de qualité, ça nous a amené à aller chercher de la valeur ajoutée. C'était comment d'aller chercher de la valeur ajoutée. Et même dans des départements comme les Landes, où il y a la production de maïs qui peut paraître très importante. Donc, et aujourd'hui, c'est quasiment la moitié du maïs qui est produit dans les Landes, qui est transformé en poulet ou en foie-gras. Donc c'était la volonté, c'était d'aller chercher de la valeur. Et en allant chercher de la valeur, c'était aussi de maintenir plus d'agriculteurs sur place qu'en moyenne par rapport aux actifs. Donc le taux d'actifs agricoles était deux fois supérieur à la moyenne nationale sur la région de Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Et ça, on a pu le faire en créant de la valeur en allant chercher en se positionnant sur des produits plutôt de, pas de niche, parce que ce soit le poulet de Saint-Sauvé ou le format du Sud-Ouest, c'est pas un produit de niche, mais des produits qui sont à aller chercher un peu de valeur ajoutée pour pouvoir. C'est, je me retrouve tout à fait dans les thématiques des états généraux de l'alimentation. C'est comment, pour la distribuer, pour la répartir, il faut déjà la créer.
Oui, madame.
Oui. Pour faire suite à l'intervenant précédent, est-ce que vous mobilisez aussi pour essayer d'avoir des outils contre l'imperméabilisation des sols, l'étalement urbain et le maintien donc, de la production agricole à travers le maintien du foncier agricole dans son usage agricole?
On est en train de travailler avec tous les. On n'a pas d'établissement public foncier régional, donc. Il y a des établissements publics fonciers plutôt locaux, ça, à certains endroits, il n'y a pas. On travaille avec les SAFER et tous ceux qui sont en charge quelque part des fonciers pour pouvoir effectivement voir comment on arrive à préserver les terres agricoles. C'est un de nos soucis, surtout dans tout ce qui est périurbain et notamment autour des métropoles. Donc là, il y a un vrai sujet pour nous. Après, aujourd'hui, on n'a pas trop d'outils pour pouvoir y arriver, mais c'est vraiment un sujet qui nous préoccupe et dont on va se saisir de manière plus importante. Parce que c'est quand même, aujourd'hui, ça devient un petit peu problématique quand on voit la vitesse à laquelle il disparaît. Donc on a des développements, enfin je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les métropoles, mais autour de Bordeaux, c'est vraiment l'étalement urbain se fait en zone, beaucoup en zone pavillonnaire, donc, et c'est très très consommateur de terres agricoles, parce qu'en général, ces implantations se font dans les zones les plus fertiles ou les plates, donc où l'agriculture était la plus facile.
Oui, ce matin, on a eu l'intervention de Stéphane Le Foll qui nous a parlé un petit peu des grandes idées qu'il avait développées lors de ses 5 années au ministère, notamment le développement de l'agroécologie, et puis développement d'une évolution de pratique de l'agriculture de manière générale pour faire face aux grands enjeux que sont d'une part les enjeux alimentaires en quantité et en qualité, les enjeux énergétiques, les enjeux de préservation de gaz à effet de serre, etc. etc. Et il a conclu en disant que tout ça ne pouvait se faire que dans le cadre de projets de territoire, parce que c'est au niveau des territoires qu'on était capable d'intégrer à la fois la production, la transformation, la distribution. Qu'est-ce que vous avez, quel projet vous mettez en œuvre avec l'agriculture locale pour évoluer vers une agriculture qui produit des produits de qualité, qui respecte l'environnement, qui lutte contre le gaz à effet de serre, qui développe les bioénergies, etc., etc. Qu'est-ce que vous avez comme projet régional là-dessus ?
L'agroécologie, pour nous, reste une priorité, donc on met en œuvre des accompagnements ou des priorités dans la politique pour amener les gens vers. Bon, c'est un sujet qu'on a travaillé déjà depuis début des années 2000, avant que j'y sois, je n'avais pas la paternité, mais on était la première région française à obliger sur le... On avait un dispositif d'accompagnement à la modernisation et à l'investissement qui s'appelait AREA, agriculture respectueuse de l'environnement, à l'Aquitaine. C'était sur l'ancienne Aquitaine, donc, et il y avait obligation pour ceux qui déposaient des dossiers d'investissement et de modernisation de s'engager dans un dispositif. Alors oui, c'était pas... l'échelle n'était pas très très haute, donc HVE numéro 2, donc avec l'obligation d'être certifié pour pouvoir bénéficier des aides. Voilà. Donc aujourd'hui, au début, on a eu tollé du monde agricole, donc aujourd'hui à l'Aquitaine, donc avec la fusion des régions, donc on a dit on va le mettre en priorité pour les nouvelles régions qui rentrent par obligation, parce que. Et c'est les gens de l'Aquitaine qui disent, mais si, il faut le mettre, il faut le mettre. Et il faut maintenant passer au HVE 3, donc qui doit être le standard à terme, si on veut. Voilà, pour dire que les politiques, il faut commencer. Les choses, on ne les change pas, malheureusement, aussi vite qu'on le souhaiterait. Mais on a engagé des mesures déjà depuis longtemps pour arriver à faire améliorer ça. On avait fait beaucoup de travail, donc pareil, on avait fait des restes, ça n'avait pas d'action concrète, mais sur le réchauffement climatique, il y a eu le rapport de Trott sur ce qui allait se passer en Aquitaine en 2050, donc, et c'est ce qui a orienté quand même les programmes de recherche à l'ISVD, donc sur les cépages et ce qui était, comment on savait, puisqu'on nous dit en 2050, ce sera Séville à Bordeaux. Donc il faut s'y préparer, même si c'est, ça peut paraître loin, mais c'est dommage.
Vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur les changements qui sont anticipés et ce que vous faites pour vous y préparer.
Peut-être, là c'est un terme de se préparer à ça, c'est, il y a des programmes de recherche sur les cépages, on a de gros programmes également sur la, les cépages résistants aux maladies, donc aujourd'hui il y a des vrais progrès en la matière, donc ce qu'il faut souvent, ils sont résistants mais le produit n'est pas forcément très très bon, donc après il faut continuer à travailler. On est sur des programmes de moyen terme, donc, ce qu'on essaie de lancer donc, en termes de plantes protéines et de l'autonomie alimentaire des exploitations, donc ça va aussi dans ce sens-là, c'est comment aujourd'hui réduire tout le coût d'impact carbone qu'il peut y avoir sur, et de l'amélioration de la marche et de la résilience des exploitations, parce que c'est. Ouais, c'est pas mal.
Et sur la filière forêt-bois qui est importante dans votre région, comment vous voyez les choses?
Il y a un travail, donc là aussi, un travail. Alors, j'avoue que sur la filière forêt, donc, j'ai une très bonne déléguée qui s'en occupe, donc, qui est sur les actions qui sont engagées en la matière, donc, mais c'est pour nous, en termes de stockage carbone, quelque chose de très important, que ce soit bien sûr la forêt ardèse, mais aussi. Donc, on est aussi préoccupé par la valorisation. Parce que c'est derrière.
Oui, au fond.
Oui, Xavier Auclair, EDF. Je voudrais savoir si dans la région Nouvelle-Aquitaine, avec l'intégration en particulier de Limousin et Poitou-Charentes, on assiste à un phénomène qu'on peut trouver dans les territoires à faible densité où, en conséquence, le prix des terres est relativement faible comparé à d'autres pays de l'Union européenne. Est-ce que vous avez, par exemple, des installations d'agriculteurs hollandais, belges, britanniques, comme cela a pu se faire dans des régions un peu plus proches de chez eux? Est-ce qu'aujourd'hui ils sont d'arrivée à Bordeaux et dans ses environs?
Je n'ai pas remarqué de phénomène particulier. Donc, moi j'étais en Bordeaux, il y a toujours eu quelques installations d'agriculteurs hollandais ou d'ailleurs de Français qui venaient de Bretagne ou de Pays de Loire qui venaient s'installer parce que. Le foncier était sans doute moins cher que là-bas. Donc, alors on a des zones où le foncier est très peu cher, mais il y en a où il est très très cher. Donc, autour de Bordeaux notamment, et où dans les Landes, c'est pas la. Autour de Bordeaux, c'est plutôt les Chinois aujourd'hui qui investissent.
Vous n'avez pas parlé du tout de votre vision de la projection de la région à l'international, à l'export, comment vous êtes une grande région d'exportation. Donc est-ce que cette vision exportatrice est prise en charge par la région ou est-ce que vous considérez que ça se fait en dehors de vous?
Ah, c'est. On accompagne, on a mis en place un outil, un partenariat donc, avec la région, le CCI international donc, et une agence que nous avons créée, enfin qui existait, mais qui a fusionné donc, et qui a aujourd'hui en charge la promotion, la communication sur les produits, sur les filières de qualité, mais pas que agroalimentaire. Et qui est aussi en charge de l'accompagnement des entreprises à l'export. Donc, nous accompagnons un certain nombre d'entreprises sur les salons internationaux. Donc, alors c'est malheureusement, enfin je dirais malheureusement, très 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 majoritairement le vin, le cognac un peu moins parce que certains groupes ils n'ont pas besoin de nous pour on est international.
Il s'en arrange.
Il s'en arrange. Voilà, donc, et ça, c'est un volet très, très important, parce qu'effectivement, aujourd'hui, que ce soit Bordeaux ou Cognac, donc, c'est quand même la place à l'export est très, très importante. On a même développé, d'ailleurs, un réseau de, qu'on avait fait avec Midi Pernet, donc sur la Chine, un réseau de maisons sud-ouest France, qu'on appelait, donc, qui sont des concepteurs un peu qui développent, qui permettent aux entreprises de faire de la promotion des produits en Chine, mais qui génèrent des flux voilà, qui ne sont pas négligeables. Donc, et nous allons en ouvrir avec un partenaire français. Donc, mais là, c'est la région Nouvelle-Aquitaine, donc à Singapour, donc, et où là, on espère pouvoir développer le flux d'agroalimentaire, ce qui en Chine est quasiment impossible aujourd'hui. Mais c'est un volet qui pour nous est très très important.
Donc je propose qu'on reste sur cette note internationale, Président, et donc en vous remerciant de cet éclairage utile pour nous.